Bonjour Jérôme Deslayans.
Bonjour Nicolas.
Associé de tous sur mesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Daniel Lang, bonjour.
Bonjour.
Chercheur, enseignant en économie à Sorbonne Paris Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis, vous présidez l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Votre avis, Jean-Hervé Lorenzi, sur la réforme des retraites? C'est quand même très mal engagé, là. Il y a une tension sociale très forte, une unité assez rarissime des syndicats, un calendrier de la tension sociale qui est organisé en amont par les syndicats de la SNCF, l'opinion qui se radicalise contre cette réforme, le gouvernement qui ne cesse de donner de l'argumentaire pour essayer de déminer les attaques contre son projet. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut bien trouver une piste de sortie. Il va falloir lâcher quelque chose. Alors, hier, on évoquait ça avec Patrick Artus, notamment, qui disait, ben, pourquoi pas dire qu'on abandonne la borne d'âge à 64 ans, qu'on fixe 63 ans et clause de revoyure 2027 pour créer un électrochoc sur cette réforme et faire en sorte qu'on en sorte par le haut.
Oui, l'idée de la revoyure est une idée assez astucieuse. Dans la réalité, permettez-moi de le dire, mais l'âge de départ aujourd'hui à la retraite, en moyenne,
l'âge effectif,
effectif, est de 63 ans. De même que en Allemagne, c'est 64 ans, c'est pas 67 ans. Donc on est sur des chiffres qui sont souvent un peu mal exprimés. Et en 2027, on sera à 63 et plus 3 mois. Donc je veux dire, c'est vrai que ici ils sont pas bien pris pour arriver à pas expliquer que c'est quand même pas la fin du monde, la réalité. Alors comment peuvent-ils faire? Moi, je crois pas trop à la clause revoyure. Et objectivement, si ils reviennent sur cette affaire, s'ils devaient revenir sur quelque chose, ce serait sur des choses aussi simples que avoir mis pour les jeunes de 24
ans.
Oui. Mais ça le débat parlementaire.
Je rappelle, à 20 ans, c'est 44 années de cotisation, alors que pour tout le monde, c'est 43.
C'est vraiment se donner des verges pour se faire fouetter. Il faut qu'ils accélèrent toute la mécanique, ils élargissent l'opération encore plus sur la pénibilité. Mmh. Et puis, les mesures d'âge, il faut vraisemblablement aller un peu plus loin.
C'est-à-dire? Aller plus loin que quoi?
J'allais dire, finalement permettre que les carrières longues soient... Ah non, oui, pardon, que les carrières longues soient, j'allais dire, plus prises en compte. Et puis, vous connaissez ma position, cette affaire de retraite est d'abord et avant tout une affaire de taux d'activité des seniors. Comme quand on va parler des jeunes, c'est un problème de taux d'activité, c'est le problème de notre pays. Et il faut absolument lancer une grande conférence dans laquelle on va demander à la CPMI et au MEDEF de prendre ses responsabilités. Quels sont les engagements pour pouvoir, pas uniquement un index qui va donner des résultats dans N années, mais quels sont les engagements que le patronat prend pour garder les gens et pas les virer à partir de 52-53 ans, parce que c'est ça quand même le fond du sujet.
Mais l'un des sujets les plus crispants depuis 2-3 jours, au point que même l'UDP pour les artisans et la CPME pour les PME, c'est le fameux début de carrière à 20 ans qui impose 44 années de cotisation.
Oui,
c'est logique, Daniel.
C'est extrêmement inégalitaire. On commence à travailler plus tard et donc on doit cotiser moins longtemps.
Ah non, pas moins longtemps.
Oui, enfin, celui
qui a commencé à 20
ans. Tardif, qu'on a cotisé moins longtemps.
Ah non,
dans cette réforme.
Ah non, Daniel, on cotise 43 ans.
Oui,
peu importe l'âge auquel on a commencé.
Enfin, on cotise 43 ans si on vous garde en emploi, une fois de plus. On vous explique que parce que le recul de l'âge de la retraite. Bon, en moyenne, on part en retraite à 63-64 ans déjà. Avec cette réforme des retraites, tout ce que ça va faire, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui vont encore avoir plus de mal à arriver à taux plein. Et d'ailleurs, l'opinion a bien compris qu'il n'y avait pas besoin d'une réforme, que c'était une réforme inutile. D'ailleurs, quand on lit le rapport du COR, il y a quand même des hypothèses...
Lequel parce
le que dernier rapport du COR, il y a quand même des hypothèses héroïques, des taux de croissance nuls, voilà. Et puis, quand on regarde l'opinion, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant.
Vous mélangez beaucoup de sujets, Daniel Lang, dans votre réponse.
Oui, mais parce qu'on a peu le temps.
Non, mais
moi,
on
je veux bien qu'on prenne le temps de détailler.
Non, mais d'accord.
Voilà. Moi, personnellement, comme tous les atterrés, je suis vent debout contre cette réforme des retraites, qui est totalement inutile, purement idéologique. Et on n'en a pas besoin de cette réforme. Et l'opinion l'a très bien compris. Et d'ailleurs, très majoritairement, qui est contre, c'est les jeunes et les femmes. Et très majoritairement, qui est pour, enfin moins majoritairement, c'est plutôt des gens qui sont déjà retraités et qui n'ont pas rencontré ce type de problème lors de leur vie active, donc et moi, plutôt des hommes.
Je vois qu'effectivement on trouve des jeunes dans les cortèges, même quelquefois qui ne sont même pas encore, enfin qui sont encore à l'école, j'ai envie de dire. Si rien ne se passe sur les retraites, ils sont à peu près sûrs que là, ils n'auront pas de pension.
Oh non, ça c'est pas vrai.
Bon, d'accord.
Le système, enfin, il suffirait d'augmenter de très peu les cotisations,
Pour
équilibrer le système, ou alors d'arrêter les politiques de baisse d'exonération sociale sur les bas salaires, sur les salaires, ou les exonérations de cotisations qui pouvaient éventuellement se justifier au moment du Covid. Moi, j'étais d'ailleurs pour qu'on aide directement les entreprises plutôt que de leur faire des prêts garantis par l'État, mais qui se justifient plus aujourd'hui. Moi, je conseille vraiment.
Les prêts garantis par l'État, ce ne sont pas des exonérations.
Oui,
c'est de l'argent prêté à prix préférentiel remboursable.
Mais justement.
En tout cas, je vois que parmi les pistes pour vous, ce serait plutôt les cotisations.
Très franchement, je conseille aux téléspectateurs ce document qui a été réalisé par ma collègue Anaïs Engel, des économistes atterrés, qui est très bien. Contre la réforme des retraites.
Je le prends.
Version 2, où il y a d'ailleurs la citation d'un homme politique qui s'appelle Emmanuel Macron, où il rappelle... En 2019, que ce serait extrêmement injuste, pas du tout justifié par l'état du système, etc.
Je rappelle pour les auditeurs 2019, parce qu'ils n'ont pas forcément cette vidéo. C'est vrai que politiquement, elle est pénible, la vidéo pour le président de la République. Il explique qu'on ne bougera pas la borne d'âge. Car on a déjà du mal à faire travailler les gens jusqu'à 62 dans cette vidéo, il dit, et donc il dit que ça n'arrivera pas.
Bon, on peut pas sortir du contexte. À l'époque, la réforme Macron telle qu'il l'envisageait n'était pas du tout une réforme paramétrique comme celle qu'on nous présente aujourd'hui. C'était une réforme qui faisait le big bang total et qui permettait de faire des retraites à la carte.
Juste.
Et donc quand on sort les laissez
Jérôme. Juste avant que Jérôme.
C'est malhonnête.
Parce que moi, je suis évidemment pas d'accord.
Si c'est malhonnête, Dany.
Ce qu'a dit. Mais je rappelle par exemple que la CFDT, qui n'est pas quand même un soutien absolue du gouvernement, était favorable à la première réforme, c'est-à-dire la réforme systémique. Donc l'idée qu'on touche aux retraites ne choque pas une large partie de l'opinion,
Jérôme,
y compris de l'opinion salariée.
Continuez. Ce que vous disiez par rapport... Voilà. Vous n'êtes pas d'accord sur fait que...
Oui, je disais, sur cette affaire-là, il faut faire preuve un peu d'honnêteté. Quand cette vidéo très pénible qui tourne là, quand Macron sort cette idée que ce serait injuste de bouger la borne d'âge, à l'époque, il nous présente une réforme, c'était dans son programme, qui est une réforme qui n'est pas une réforme paramétrique classique comme celle qu'on nous propose aujourd'hui, mais une réforme
systémique,
qui était complètement systémique, avec une retraite à points, sur lequel il y avait à la carte, on décidait quand on partait, et c'était même droit, hein, c'était son principe de même droit égal, enfin même cotisation égale même droit. Voilà.
Soutenu par la CFDT.
À l'époque, soutenu par la CFDT.
Il a renoncé à cette réforme-là. Donc on revient à une réforme paramétrique normale, et là, ce qu'on disait tout à l'heure est tout à fait juste. Il y a quelques points qui sont urticants. Ces points urticants sont des points en fait de bornes d'intervalle ou de cas particuliers où je me retrouve dans le trou qui fait que je vais être un peu plus pénalisé que les autres, etc. Il faut régler tout ça. C'est le cas pour un certain nombre de sujets sur les femmes, c'est le cas pour les carrières longues, etc. Il faut régler ça. Hein. Après, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Il nous manque 40 milliards, public plus privé.
Ah, si vous mettez la surcotisation de l'État employeur.
Alors après, on peut regretter qu'on n'ait rien fait sur les retraités, donc on ait choisi de ne pas toucher aux retraités.
J'ai un courrier à vous lire.
Moi, je pense, comme chef d'entreprise, je pense qu'on est au bout de ce qu'on demande comme prélèvement à nos entreprises. Donc il faut forcément travailler sur le lien entre la durée d'activité et l'allongement de la durée de vie. Bon. On peut discuter de la vitesse sur la fonction publique, parce que c'est quand même là qu'il y a 30 milliards sur les 40 qui manquent. Hein. Donc on n'est peut-être pas tout à fait assez loin en matière de financement des retraites des fonctionnaires et des fonctions publiques. Mais il faut la faire, cette réforme. Il faut la faire en enlevant les points urticants. Et puis il faut espérer que si on la passe, il y aura un côté raisonnable des gens qui essayent de mettre le pays à feu et à sang, ce qui ne nous arrangerait pas. Parce que je rappelle que le meilleur filet de protection sociale pour les citoyens français, c'est quand même qu'on ait des boîtes qui marchent, qui créent de la richesse, qui nous permettent de financer tous nos systèmes.
Voilà. Le problème, c'est que autant l'opinion est en train de vriller du mauvais côté, autant la majorité parlementaire devient incertaine, ce qui n'était pas le cas pour Éric Woerth en 2010. Et c'est là où ça devient
juste.
Allez-y, Daniel. Je veux absolument que j'aime pas à mes auditeurs.
J'aime pas qu'on me traite de malhonnêteté.
Non, mais je suis pas général. C'était sur ce truc-là.
Je suis quelqu'un de très honnête.
J'ai raison ou j'ai pas raison quand je dis que c'était pas la même réforme qu'il proposait quand il parle de cette borne d'âge, de cette vidéo.
Moi, je ne traite pas.
j'ai sorti
avec lequel je suis en désaccord de malhonnête.
Mais j'ai pas dit que donc, vous étiez malhonnête. T'as dit, j'ai dit que si sur ce coup-là, il fallait faire preuve d'honnêteté sur ce point précis.
Oui, ben je fais preuve d'honnêteté.
Une manière.
Alors, non, j'avais répondu, Dany Long,
mais après, je rappelle sur la précédente réforme.
Pardon ?
Je voudrais quand même rappeler sur la précédente réforme.
Quoi ? Celle de 2019.
Mais j'étais pas le seul. Je la considérais comme pas sérieuse parce qu'il y avait des concepts que personne ne savait calculer, y compris à Bercy. Donc il faut arrêter de sortir le DAHU et des machins. Donc cette réforme-là, elle est sérieuse au sens où on touche à des paramètres, on sait la calculer, on sait l'évaluer.
La précédente,
personne ne savait comment on calculait les choses, etc. Et puis à chaque fois, on nous sort, au moins cette fois-ci, ils nous ont pas fait le coup. Ah, mais vous rendez compte les régimes spéciaux, alors que les régimes spéciaux s'éteignent avec leurs bénéficiaires. Donc au moins cette fois-ci, on nous a pas fait le coup des régimes spéciaux pour nous sortir le DAHU qu'on sait pas calculer, le machin bidule chouette qu'on sait pas calculer. La précédente réforme, je suis désolé, c'était pas sérieux économiquement parce qu'on nous inventait des concepts. Bidon.
Jean-Hervé, vous vouliez réagir, allez-y.
Non, deux choses. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord sur ce jugement sur la réforme.
D'accord. Sur quelle réforme ?
D'accord, ben la première réforme.
Ah, la précédente à point, d'accord.
Précédente, je veux dire, l'idée de faire une réforme à point, c'était une idée très audacieuse, difficile à mettre en œuvre, mise en œuvre dans un certain nombre de pays, donc ça doit être jouable si j'avais fait mis dans un autre pays, dans d'autres pays. Et deuxième aspect, elle était soutenue par le premier syndicat de France. Donc, quel que soit le jugement exceptionnel des économistes, si le premier syndicat de France soutient, je me dis quelque part que ça mérite qu'on s'arrête 5 minutes.
Il y a des remontées du modèle suédois qui sont aujourd'hui moyennement enthousiasmantes sur ce modèle-là.
Non, mais c'est sûr.
Il n'y a pas d'AU dans le modèle suédois, au passage.
Non, mais de toute façon, l'idée même qu'on puisse toucher au système de retraite, alors qu'on l'a fait depuis 20 ans, heureusement d'ailleurs, à 4 reprises, gauche et droite confondues, tout ça montre bien que, au fur et à mesure que la durée de vie des gens évolue, on peut adapter quelque chose. Ça n'a rien de scandaleux. Deuxième sujet, le vrai sujet, et c'est un moyen peut-être de réouvrir le débat autrement que sur cette affaire de 64 ans, dont je rappelle qu'elle est quand même, en réalité, c'est pas non plus la fin du monde, c'est de revenir sur les taux d'activité et de revenir, je rappelle qu'entre à partir de 60 ans, il y a à peine un tiers des femmes et des hommes qui sont en activité, ce qui évidemment pose un problème, parce que ça, c'est vraiment absurde. À la fois, les gens se vivent comme étant, j'allais dire, des assistés, on ne crée pas de richesse. Enfin, tout ça ne fonctionne pas, et ça, c'est la responsabilité du MEDEF et de la CEPMI. Alors,
on peut, oui, juste, si vous me permettez.
Alors, Dany Long, allez-y,
pour compléter ce que vous disiez,
Jérôme Délion.
C'est exactement la raison principale pour laquelle, personnellement, je suis comme les syndicats, pour une fois, vent debout contre cette réforme des retraites, parce qu'on sait très bien que ça va dire, ça va signifier pour nombre de retraités une baisse, parce qu'il sera encore plus difficile d'atteindre la retraite à taux plein que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Donc voilà, il y a un moment, si on était au plein emploi, si c'était fantastique, si on avait 2% de chômage de catégorie A, B et C confondus, je serais totalement d'accord pour reculer l'âge légal. On en est très loin. On a 5 millions de chômeurs dans ce pays, et la plupart des gens, on ne les laisse pas aller jusqu'à 64 ans.
L'un des grands arguments, effectivement, des opposants à la réforme, est de dire que, comme beaucoup de gens ne parviendront pas à boucler une carrière complète, mécaniquement, ils auront des pensions.
Ah bah oui,
j'ai un auditeur qui réagit. L'argument de Dany Long qui préconise d'augmenter les cotisations et de revenir sur les allègements de charges dans un pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés m'ont transformé en auditeur atterré. Franchement, on croit encore à ces vieilles lunes, m'écrit Robert.
Deux sujets. Moi, j'ai un sujet sans faire de philo. J'ai un sujet anthropologique qui est que tout le débat tel qu'il est en train de se cristalliser est un débat qui a l'air de dire que le travail c'est mal, c'est un truc à éviter.
Alors là, c'est un sujet de
fond. Donc ça, non, mais je ne
fais pas ça.
Mais si, il y a un peu ça.
Je suis premier à défendre le travail plutôt que
la deuxième chose. Et Nicolas, vous le pointiez tout à l'heure, et c'est très vrai. Moi, je connais bien les grosses boîtes françaises, d'accord, grands groupes internationaux, dans le SBF 250, enfin les premières capitalisations, etc. C'est des boîtes dans lesquelles on a essayé historiquement de se débarrasser des gens à partir de 45 ans. C'est-à-dire que le plan senior de ces boîtes-là démarre à 45 ans. Ça, c'est pas bien. Et donc ça il faut absolument, il faut absolument lutter contre ça. Et effectivement, il y a un gros effort à demander aux entreprises dans ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et carrières. C'est-à-dire, quelle est la courbe de travail qu'on peut proposer à quelqu'un au fur et à mesure qu'il est au travail et qu'il vieillit, donc ses capacités physiques. Alors c'est très vrai pour les gens qui ont des métiers manuels ou un peu pénibles, hein. Il faut essayer alors c'est un enjeu de formation, un enjeu de gestion, il faut essayer d'amener les gens vers d'autres boulots ou une évolution de la nature des tâches qu'ils réalisent au fur et à mesure qu'ils vieillissent, et peut-être un aménagement des horaires. Enfin, tout ça, on sait le faire dans plein de cas. Il y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas.
Il faut en avoir la volonté, Jérôme.
Et c'est quand même un truc de grand groupe. Il faut quand même le dire. C'est un truc de grosse boîte plus qu'un truc de PME. Dans les PME, on s'élève votre retraite le jour où on part.
Mais
il faut en avoir la volonté. On est d'accord. Il faut en avoir la volonté. Il semblerait. Moi, j'en parlais hier avec mes invités. On est quand même un cas particulier en France sur la difficulté qu'on a à faire travailler les plus âgés, plus vieux.
Non, mais ça,
c'est un pays où le taux d'emploi des seniors est supérieur.
C'est vrai,
ce que nous avons fait, c'est les calculs l'ordre de grandeur, assez connus. Moi, je veux bien que la Suède ait des doutes sur son système. Moyennant quoi, si on avait le même taux d'activité que les Suédois, on aurait 1 700 000 personnes de plus qui travailleraient, ce qui veut dire environ 2 points de PIB de plus. Et c'est de l'argent c'est de la richesse qui peut être répartie entre tous, y compris pour les retraités. J'ajoute juste pour mon ami de toute façon, les 4 réformes qui ont été mises en œuvre à partir de celle de 93 de Balladur vont frapper durement les retraités. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas besoin de cette réforme-là pour que ça baisse. Hein.
Tout à fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter.
L'histoire.
Et d'ailleurs, au passage, personnellement, je n'étais pas un fan de ces réformes, mais je trouve que, quand même, elles étaient plus nécessaires au vu de l'état du système et des prédictions que la réforme actuelle, qui est totalement inutile. Et même, il y a même des députés de la majorité qui reconnaissent que c'est le coup de trop dans la fourmilière sociale. Donc, c'est pas pour rien, quand même. Ils se rendent bien compte que c'était pas
nécessaire. L'un des sujets probablement les plus complexes, c'est l'histoire de l'emploi des seniors, Jérôme Dédéhiant. Alors, là, il y a certains qui disent que ce fameux index senior, c'est bien joli, mais comme il n'est pas assorti de sanctions, ça ne sert à rien.
Bah oui.
Est-ce que la bonne volonté du tissu entrepreneurial français et des grands groupes fera qu'on trouvera la solution, ou faut-il en passer par de la contrainte et de la sanction?
Moi, je peux parler en tant que patron de PME, hein, j'ai quelques boîtes. Mm-hmm. Ce que j'essaye de faire dans mes boîtes, parce que j'ai eu mes premières retraités. Hein. Évidemment, quand j'ai monté ma première boîte et que j'avais 30 ans, la moyenne d'âge, j'embauchais pas de seniors, ça c'est sûr. À la limite, je le regrette parce que j'aurais dû le faire. Bon. En tout cas, j'ai vécu mes premiers départs en retraite dans mes boîtes là. Qu'est-ce que j'ai demandé aux gens de faire sur la fin de leur carrière, les dernières années? Je leur ai demandé de consacrer beaucoup de temps à transmettre aux plus jeunes. Voilà. Et donc, il y a un enjeu de transmission du capital intellectuel, des savoir-faire, qui est quelque chose qu'on peut prendre en compte dans la gestion des carrières des seniors et qui peut avoir une énorme utilité pour le PIB, pour le coup. Hein, si on est vraiment, parce que perdre un savoir-faire, parce que quelqu'un s'en va avec une compétence, quelle qu'elle soit, technique, manuelle, une compétence intellectuelle, une compréhension de la matière, mais c'est vrai aussi dans la fonction publique. Hein, dans la fonction publique, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui part, je connais bien le ministère du Travail, parce que j'ai beaucoup d'interactions avec lui dans mes boîtes, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui part et c'est un pan entier de compétences qui s'en va. Mmh. Et là, vous vous retrouvez avec des jeunes, et à la limite, c'est vous qui les reformez. C'est-à-dire que c'est vous, le client de l'administration, qui allez reformer les jeunes qui ont pris la suite de l'ancien, qui savait, avec qui on avait le dialogue, les liens, qui était capable de faire jurisprudence, etc. De donner des positions de doctrine administrative qui permettaient de faire avancer la matière partout où on travaillait. Et donc, ces enjeux de transmission sont des enjeux essentiels pour la gestion de l'emploi des seniors. Et il me semble qu'ils sont très importants. On peut mettre un peu de pression supplémentaire sur les boîtes.
Quelle doit être cette pression?
Ça n'a rien d'impossible, puisque entre 55 et 60 ans, en une dizaine d'années, l'augmentation de la participation au travail de cette tranche d'âge a augmenté de 15 points.
Oui.
Donc ça veut dire que tout ça, c'est un problème qui est soluble. Simplement, pour le moment, c'est culturel. En réalité, je me suis beaucoup interrogé pour quelles raisons cette affaire de retraite était si compliquée dans notre pays, parce qu'elle est quand même très compliquée.
Oui.
En fait, ça démarre, curieusement, je pense, au moment de Raymond Barre, les pré-retraites en 75. On a mis 1 million de personnes, qui étaient d'ailleurs souvent des cadres très bien lotis, et qui se sont retrouvés, à 52 ans, 53 ans, à la retraite. Et c'est évidemment, à l'époque, les régimes de pré-retraite étaient des régimes publics. C'était nous qui payions leur retraite. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à considérer qu'il fallait sortir les gens assez tôt. C'est absurde. Je dis à Jérôme qu'il faut faut pas cantonner les gens d'ailleurs simplement à une sorte de tutorat, parce que ils ont l'impression d'être les gens qui sont des travailleurs de seconde zone. Non, je veux dire, les gens dans les autres pays continuent à avoir des activités, et si c'est des activités qui sont pénibles, etc., il faut évidemment
marque une pause.
Considérer que ce sont des carrières longues et qu'il faut les sortir.
Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais il y a eu énormément de réactions d'auditeurs là-dessus depuis que nous parlons de ces retraites, c'est le fait qu'effectivement aucun effort n'est demandé aux retraités les plus aisés. Alors justement, j'ai reçu un courrier, je vous en ferai part dans un instant, parce qu'il est illustratif de ce que je reçois assez régulièrement.